Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'Europe à nouveau se referme face à une nouvelle vague de contamination. Trois niveaux d'alerte Covid selon les régions vont être annoncés au Royaume-Uni, qui déplore le plus grand nombre de morts, plus de 42 800. En France, alors que de nouvelles villes sont placées en alerte maximale, le Premier ministre ajoute qu'aucune nouvelle mesure, y compris des reconfinements localisés, ne peut être exclue. Il n'y a guère qu'en Italie, premier pays touché par la pandémie, où l'on s'attend à un allègement de la quarantaine en cas de contact avec le virus. Le pays, tout comme le reste de l'Europe, découvre le travail à distance et cela pourra même être une opportunité pour corriger les disparités économiques entre régions et entre le Nord et le Sud. Une association intitulée South Working, travailler au Sud, pense même que tous ces télétravailleurs, qui sont aussi des consommateurs, feraient du bien pour la croissance au Mezzogiorno. À Palerme, Cécile Debarge est allée les rencontrer.
Profiter du télétravail pour travailler de l'endroit où l'on veut. Si des milliers de travailleurs l'ont fait instinctivement en Italie, l'association South Working Travailler au Sud l'a mise au cœur de son projet en soutenant et conseillant les jeunes actifs tentés par l'idée.
On ne parle pas seulement du Sud. En réalité, on a été contacté par les régions de Lombardie, les vallées de la région de Bergame, donc des endroits loin des métropoles et qui aimeraient attirer des travailleurs comme les villages italiens, les zones périphériques. L'enjeu, c'est une relance et une répartition plus équitable des ressources sur le territoire.
Elena Militello a 27 ans. Cette chercheuse en sciences humaines vit et travaille au Luxembourg quand l'Italie décide de se confiner. Dès le mois de mars, son employeur lui permet de rentrer à Palerme, sa ville d'origine. Naît alors l'idée du projet South Working, travailler au Sud, dont elle est aujourd'hui présidente. Sur les réseaux sociaux, plus de 6000 personnes suivent l'initiative et partagent à leur tour leur expérience de télétravail hors des grands centres urbains du pays. Martina Derito, une des membres de l'association, fait défiler sur l'écran de son téléphone les témoignages recueillis, comme celui de cette jeune femme rentrée dans les Pouilles, sa région d'origine, dès le mois de mars.
Giorgia, qui s'occupe de marketing numérique, elle est originaire de Tarente et elle a déménagé à Milan parce qu'elle travaille pour une entreprise milanaise. Et puis il y a Lydia, qui vient des Pouilles et elle travaille depuis 6 ans pour une entreprise en tant que South Worker, travailleuse basée au Sud, parce que dès le début, cette entreprise a choisi d'avoir ses employés éparpillés dans toute l'Italie et donc de les faire travailler depuis chez eux.
Martina Derito, elle, a 28 ans, graphiste, elle a étudié à Turin avant de revenir à Palerme. Elle fait partie du noyau dur des South Workers, un groupe d'une dizaine de bénévoles de 25 à 35 ans qui a rêvé d'une Italie différente pendant les mois de confinement.
Tout le monde ne peut pas faire du télétravail, les ouvriers par exemple, ceux qui travaillent à l'usine, mais le déménagement de certaines personnes vers le sud pourrait vraiment provoquer la naissance de nouvelles entreprises locales et une croissance économique et donc amener de la richesse dans ces territoires et de nouveaux types d'emplois.
À la différence des nomades digitaux, ces jeunes actifs des secteurs du numérique qui télétravaille depuis n'importe où dans le monde, l'association aimerait créer un cercle vertueux pour les économies locales et a pour cela regardé ce qui se faisait au Portugal, explique Elena Militello.
Nous avons étudié le cas de Lisbonne. Depuis plusieurs années déjà, la ville a attiré une grosse communauté de nomades digitaux en misant sur le faible coût de la vie, sur la possibilité d'obtenir certains avantages économiques. Il y a eu des politiques menées dans le but d'attirer des étrangers. Et bien sûr, cela veut aussi dire tout un tas de difficultés qui en découlent, la gentrification, l'augmentation du coût de la vie pour les locaux ou bien la difficulté de comprendre le véritable impact à long terme.
Afin de mieux cerner les profils intéressés par leur démarche, les bénévoles ont réalisé un questionnaire auprès de 1800 jeunes actifs, notamment ceux originaires des régions du Sud et qui travaillent dans le Nord. Entre 80 et 85% des personnes sondées seraient prêtes à quitter les grands centres urbains si elles pouvaient garder leur travail. C'est pour la présidente de l'association la confirmation de leur hypothèse de départ et une motivation supplémentaire pour se concentrer désormais sur l'objectif principal.
Se battre pour ne pas être relégué au rang d'utopie du confinement, d'utopie des mois de la Covid, mais que ça devienne vraiment l'objet de politiques publiques, d'amendements aux textes de loi sur le télétravail qui sont en vigueur et sont encore très limités. Le deuxième point, c'est d'étudier le phénomène à travers un observatoire. On est en train de nouer plusieurs partenariats avec des universités italiennes pour étudier le phénomène d'un point de vue vraiment transversal, du droit à la sociologie, à l'économie, à l'urbanisme ou à l'architecture.
Les bénévoles sont désormais plus d'une cinquantaine aujourd'hui et ont reçu près d'un millier de candidatures pour leur prêter main forte. À terme, ils souhaitent attirer également des travailleurs étrangers qui pourraient s'installer en Italie dont la qualité de vie est souvent vantée mais où les perspectives d'emploi sont difficiles.
On voudrait prendre le contre-pied des politiques classiques pour développer le Mezzogiorno et les régions plus défavorisées. C'est-à-dire d'abord vouloir développer des infrastructures comme dans le nord du pays ou à l'étranger, ensuite attirer les entreprises et seulement en dernier lieu attirer les travailleurs et lutter contre le chômage.
C'est le dernier des grands chantiers qui les attend au cours des prochains mois.
La troisième étape, ce sera celle du soutien aux travailleurs, aussi bien lors de leurs négociations, on cherche par exemple des cabinets spécialisés en droit du travail qui pourront assister les travailleurs dans le changement de modalité de leur travail, jusqu'à leur déménagement.
Selon une étude du journal économique Il Sole 24 Ore, Milan, la grande ville du Nord, a attiré près de 100 000 résidents venus d'autres régions d'Italie au cours des 10 dernières années.
Mais si ce phénomène de travail à distance est vu comme une manière de repenser le développement économique de la péninsule, dans le Nord et à Milan particulièrement, qui a bâti son développement économique sur la migration intérieure, on s'inquiète plutôt, Franceline Beretti.
Oui, car l'essor économique de la capitale lombarde s'est construit sur cette main-d'œuvre venue du Sud à la recherche d'un avenir meilleur. Souvenez-vous de Rocco et ses frères dans le film de Visconti, ces méridionaux fraîchement débarqués dans un logement social milanais des années 50. Avec ses grosses usines, notamment dans le domaine de l'automobile, la ville offre alors de nombreuses opportunités. Cette migration vers Milan n'a jamais cessé, malgré la transformation de l'industrie. L'âge d'or de la voiture est terminé, mais les banques, la recherche, la publicité, la mode et le secteur des services, en général, attirent encore et encore les jeunes du Sud. D'après le principal quotidien économique italien, en 20 ans, Milan a gagné 100 000 nouveaux résidents, surtout méridionaux, soit environ 5 000 immigrés internes par an. Ces actifs ont pourtant encore un pied dans leur région d'origine. Quelques heures avant le début du confinement, en mars dernier, ils se sont rués dans les avions, les trains et les bus pour regagner leur vrai foyer et ne pas passer cette période compliquée dans une ville presque étrangère. Maintenant, les ouvriers sont revenus, la production est repartie, mais certains employés ou freelance, eux, sont restés au sud. Difficile d'évaluer combien, car les entreprises qui le peuvent imposent le travail à la maison pour tout le monde. Les restaurateurs et les agents immobiliers, eux, constatent bien l'absence de leurs clients du Sud et ils craignent de ne pas réussir à se relever sans eux.
Girdėjęs pasakyti nieko negaliu Jau skanės to pasuoju ratu Man pačio nulio mes padarė viską patys iš tiesų Aš tik nuo savęs judu Aplinkui viskas tik sukas ratu
On votait hier en Lituanie, dans ce petit état balte du nord de l'Europe. C'était le premier tour des législatives, mais elles ont pris cette année une tournure inhabituelle, puisque pour la première fois, les expatriés avaient le droit de voter. Et dans cette ex-république soviétique, ce n'est pas un détail, car depuis l'indépendance, 1 million de Lituaniens sont allés vivre à l'étranger, principalement au Royaume-Uni, des jeunes, les forces vives d'un petit pays qui ne compte que 3 millions d'habitants. Marielle Vituro, notre correspondante à Vilnius, nous explique ce que leur participation va changer.
un timbre et une enveloppe dans lequel elle a glissé le bulletin de son choix. Voilà comment Emilia Pundjoutegalois a voté cette année. Mais pour la première fois depuis qu'elle s'est installée pour vivre en France en 2011, elle a voté pour un député représentant spécialement les Lituaniens de l'étranger.
C'est un facteur motivant, c'est un peu symbolique aussi, c'est l'attention qui est accordée aux Lituaniens à l'étranger. Auparavant, les Lituaniens à l'étranger votaient dans une circonscription lituanienne, à Vilnius, ce qui ne correspondait pas forcément à l'identité des Lituaniens à l'étranger.
La Lituanie compte 3 millions d'habitants, mais il y a plus d'un million de Lituaniens hors des frontières. Et parmi eux, ils sont plus de 300 000 à disposer du droit de vote. Il était temps de les prendre en compte pour Emilia Pundjoutegalois, qui est aussi à la tête de la communauté lituanienne en France.
La question qui se pose, est-ce que une fois qu'ils sont partis, donc on n'en parle plus, ou est-ce que on essaye de les fédérer un petit peu autour des affaires de la Lituanie? On se pose la question, comment ne pas perdre complètement une grosse partie de la population.
Sur 17 partis en lice, 10 ont un candidat pour les Lituaniens de l'étranger. Dalia Asanavičiūtė est l'une d'entre eux. Elle habite depuis 7 ans au Royaume-Uni et détaille ce qui préoccupe les Lituaniens de l'étranger.
Ce qui intéresse les Lituaniens de l'étranger, c'est la question de la citoyenneté, de l'enseignement du lituanien. Il y a plus de 200 écoles du samedi dans le monde qui l'enseignent, mais leur pérennité est toujours remise en question. Beaucoup sont préoccupés car on considère souvent en Lituanie leur départ comme une trahison. Il n'empêche que 60% des Lituaniens envisagent de rentrer. Ils veulent savoir aussi quelles seront les conditions pour inscrire leurs enfants à l'école, pour chercher du travail.
Quand la Lituanie retrouve son indépendance il y a 30 ans, le pays compte 3,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, 500 000 de moins malgré une natalité qui remonte ces derniers temps. La raison est à chercher du côté de l'émigration. Si des villages se vident, le phénomène n'est pas que négatif, la démographe Dovilė Krupickaitė.
Depuis de très nombreuses années, les émigrés ont un rôle économique important. Ils versent chaque année de l'argent à leurs proches restés ici. Ces transferts jouent un rôle non négligeable dans l'économie lituanienne et la consommation. Depuis peu, les Lituaniens sont nombreux à revenir. Ils se servent de leurs connaissances et de leur expérience pour créer leur société ici.
Depuis une dizaine d'années, la diaspora lituanienne devient une priorité. Marius Godinas en charge de cette question au ministère des Affaires étrangères.
Quand nous sommes sortis de l'Union soviétique, la diaspora lituanienne a joué un rôle crucial pour aider la Lituanie. Elle a milité pour demander la reconnaissance de la liberté. Au fil des années, nous avons pris conscience de l'importance de ces Lituaniens de l'étranger. Les diverses institutions lituaniennes se sont rendues compte qu'ils représentaient un potentiel.
En 2019, parallèlement au scrutin présidentiel, un référendum est organisé. Il s'agit d'approuver un amendement à la Constitution pour autoriser la double citoyenneté pour les personnes d'origine lituanienne. 60 000 Lituaniens de l'étranger votent. Un record. Le oui l'emporte, mais le quorum n'est pas atteint. Quelques mois plus tard, le Parlement lituanien décide de créer une circonscription pour les Lituaniens de l'étranger. Un geste important pour la politologue Ainė Ramonaitė.
Un nombre important d'expatriés ne s'imaginent pas pour toujours hors de la Lituanie. Pour eux, ils sont de façon provisoire à l'étranger pour gagner de l'argent et ils se sentent appartenir à la Lituanie. Ils veulent donc avoir leur mot à dire sur l'avenir de leur pays. Il y a certes un seul représentant de cette communauté élu directement, mais il vote en plénière, donc sa voix compte.
Pour ce scrutin législatif, 40 000 Lituaniens de l'étranger se sont inscrits pour voter, soit deux fois plus que lors des précédentes élections. Un test pour la Lituanie qui voit depuis plusieurs mois les flux entre départ et retour s'équilibrer.
Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem.
Et pour notre chronique livre, nous partons dans les Balkans pour parler d'un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1943 et 1945, des milliers de Bosniaques musulmans se sont engagés aux côtés des nazis pour former ce qu'on a appelé la division Anchar, l'une des 38 de la Waffen-SS. Une histoire avec un grand H qui a ensuite été largement utilisée lors de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie Yougoslavie pour discréditer la communauté musulmane. C'est tout cela que raconte l'historien Xavier Bougarel, spécialiste des Balkans, dans son dernier ouvrage « La division Hantchar Waffen-SS de Bosnie, 1943-45 », qui vient de paraître aux éditions Passé Composé. Pour en parler avec nous, on retrouve Simon Rico. Bonjour Simon.
Bonjour Frédéric.
Quelle était la situation politique en Bosnie-Herzégovine durant la Seconde Guerre mondiale ?
Eh bien, depuis le printemps 1941, la Bosnie-Herzégovine fait partie de l'État indépendant de Croatie. Ce pays fantoche a été créé par les nazis après le démantèlement du royaume de Yougoslavie auquel était rattachée la Bosnie. À sa tête, Hitler y a placé le général Ante Pavelić, le chef des Oustachis, un mouvement ultranationaliste croate soutenu par Mussolini depuis la fin des années 20. Dès leur arrivée au pouvoir, les Oustachis menèrent une politique collaborationniste qui les a conduits à massacrer les juifs, les tziganes, mais également les serbes et les militants communistes. Or, en Bosnie-Herzégovine, territoire multiethnique, des mouvements rivaux vont se faire face jusqu'en 1945. Les Oustachis, les partisans antifascistes de Tito, et les Tchétniks, des nationalistes serbes monarchistes qui commencent par résister avant de collaborer avec l'occupant nazi pour battre les partisans.
Et comment peut-on expliquer la création de la Hantchar, cette division SS musulmane, ce qui a priori ne semble pas cadrer avec les critères racistes des nazis ?
D'abord, il faut rappeler que les Balkans n'étaient pas une priorité pour Hitler, qui préférait mobiliser ses troupes sur le front de l'Est. L'objectif des nazis était donc de recruter des hommes localement pour limiter au maximum le déploiement de soldats allemands dans cette zone. Par ailleurs, Himmler, le chef des SS, était profondément islamophile. Il considérait l'islam comme une religion guerrière, bien plus proche des idéaux du national-socialisme que le christianisme. Pour les musulmans bosniaques, population minoritaire au sein de l'État indépendant de Croatie, s'engager au sein de la division Hantchar permettait de s'assurer d'une protection face aux autres belligérants. Il faut néanmoins souligner que les volontaires représentaient seulement un tiers des 20 à 30 000 musulmans qui ont combattu au sein de la division Hantchar. La plupart avaient dû quitter leur village à cause des intenses combats interethniques et ils s'enrôlaient pour des raisons surtout économiques. Leurs soldes servaient à nourrir leur famille.
Et peut-on dire que l'antisémitisme était très présent au sein de la division Hantchar ?
C'est une question délicate. Il faut savoir que ces hommes étaient très essentiellement issus de la petite paysannerie. Leur éducation était très faible, beaucoup étaient analphabètes et ils combattaient avant tout, comme je le disais, pour des raisons pécuniaires. Pour les encadrer, les nazis avaient recruté des imams chargés de les motiver en insistant sur la convergence de vues entre la foi musulmane et l'idéologie nationale socialiste. Cela se résumait avant tout au rappel de valeurs communes très générales, le patriarcat ou la combativité et la nécessité de lutter contre leurs ennemis communs, à commencer évidemment par les juifs et les communistes. Une chose est certaine, ces soldats musulmans étaient soumis à une intense propagande antisémite au sein de la division Hantchar. Ceci étant, certains de ces combattants ont préféré déserter pour rejoindre la résistance antifasciste victorieuse vers la fin de la guerre, ce qui tend à montrer la faiblesse idéologique de ces soldats et la fluidité de leurs allégeances.
Et de quelle manière, Simon, l'histoire de la division Hantchar a-t-elle été utilisée à des fins partisanes ?
Eh bien, au moment de l'éclatement de la Yougoslavie, la propagande nationaliste serbe a beaucoup glosé sur cette histoire de division nazi-musulmane pour discréditer les Bosniaques. On insistait sur sa prétendue dimension islamiste, alors qu'il s'agit en réalité d'une division allemande dont la chair à canon était originaire de Bosnie-Herzégovine et dont l'idéologie était national-socialiste. Du côté bosniaque, c'est un sujet complexe, mais même les nationalistes n'ont jamais cherché à réhabiliter cette mémoire, contrairement à ce qu'ont fait leurs homologues serbes avec les Tchétniks ou croates avec les Oustachis. Au contraire, les Bosniaques préfèrent aujourd'hui minimiser toute proximité d'une partie des leurs avec les nazis et insister sur les mutineries qui ont eu lieu à Villefranche-de-Rouergue en France, puis en Bosnie-Herzégovine fin 1944, quand on a voulu envoyer les musulmans de la Hantchar combattre sur le front de l'Est. Mais la plupart de ces déserteurs ont rejoint les rangs des Oustachis plutôt que ceux de la résistance communiste des partisans.
Merci Simon Rico, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.